Alors, ce matin, on continue notre série sur les 10 commandements qu'on a entamés la semaine dernière à fond de train. On a mis la table, on a placé le contexte pour l'ensemble des 10 commandements, le contexte historique, un petit peu quelle était la pensée de Dieu avec cette loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Et on a vu ensemble le premier commandement. Alors, si vous n'étiez pas présent dimanche dernier, je vous encourage fortement à prendre le temps d'aller écouter le message pour vous placer dans le contexte. C'est vraiment important, d'autant plus que notre rapport à la loi, d'accord? Naturellement, notre rapport à la loi, c'est une relation difficile, n'est-ce pas? Avouons-le, la loi, on a tendance à trouver ça, voir ça comme quelque chose d'étouffant. Et c'est vraiment important de voir le contexte de grâce où Dieu a donné cette loi. Ce matin, on va aller voir ensemble le deuxième commandement, « Tu n'auras pas d'idole ou tu ne te feras pas d'idole ». Et on va voir ensemble ce matin que les idoles ne sont pas seulement dans les temples faits de main d'homme ou sur la patinoire du Centre Bell. Les idoles peuvent prendre toutes sortes de formes, d'accord? Parce que l'être humain, par nature, veut se faire des dieux sur mesure qui vont être là pour le servir, pour servir son cœur. Alors, on va écouter ensemble notre frère Serge nous lire la parole de Dieu dans Exode 20, les versets 1 à 17. Écoutons la parole de Dieu.
Donc, le passage de ce matin est tiré du livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Je ferai la lecture dans la version 8 secondes. Exode 20, versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les servirais point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Les voir retomber dans un esclavage quelconque. Or, l'esclavage le plus sévère qu'un être humain peut vivre, c'est celui qui est dans son cœur. C'est celui qui est dans son cœur. Et Dieu leur donne cette loi-là qui est belle et magnifique et qui lui ressemble. Voyez-vous, lorsqu'on instruit nos enfants, on les enseigne, puis on leur donne des principes, inévitablement, ce qu'on leur communique, ça ressemble à notre idéal à nous, à ce qu'on voudrait qu'ils deviennent, n'est-ce pas? Et donc, dans cette loi, dans ces 10 commandements-là, ces 10 paroles de Dieu qui, en quelque sorte, représentent toute la loi de Dieu, c'est un résumé, comme on l'a dit la semaine dernière, mais représentent toute la loi de Dieu. Dans ces 10 commandements-là, Dieu parle de lui. Il parle de son cœur et on peut découvrir la personne de Dieu même à travers ses préceptes parce que ça nous parle de ses valeurs, de ce qu'il veut voir se vivre au milieu du peuple de Dieu. Dieu les a sauvés, Dieu leur donne cette loi Et je veux juste vous ramener au tout début d'Exode 20, vous relire l'introduction que Dieu donne au verset 1 et 2. On lit alors, « Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu est en train de s'adresser à tout un peuple, d'accord? Et regardez bien comment est-ce qu'il parle. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Dieu s'adresse à une nation entière, des centaines de milliers de personnes qui sont là, et Dieu leur dit, « Je suis ton Dieu. » Parce que Dieu désire une relation personnelle avec Israël. Parce que chacune des personnes qui composent ce peuple-là doit répondre dans son cœur et décider, « Est-ce que l'Éternel est mon Dieu? » Alors, avant d'aller plus loin, avant d'aller voir le deuxième commandement, simplement pour se remettre dans le contexte, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour toi ce matin. Dieu désire te dire exactement la même parole. Je suis l'Éternel qui t'est sorti de l'esclavage. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ma question, c'est ceci. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que au plus profond de ton cœur, tu réponds en disant « L'Éternel est mon Dieu ». Voyez-vous, quand je lis la Bible pour moi-même, pour Yannick, là, pas, je ne suis pas en train de préparer un message pour l'Église, le matin, je rouvre la Bible, puis de ce temps-ci, j'écoute la Bible. D'accord? Fait que j'écoute, je suis dans l'Exode, puis je suis dans Genèse, puis j'avance, puis j'écoute ça. Quand j'écoute la parole de Dieu, je la reçois comme un message de Dieu pour moi. Parce que j'ouvre la lettre de mon Dieu. Et même si dans Genèse, Dieu s'est peut-être adressé à ce moment-là à Jacob, je reçois cette lettre-là comme une lettre qui a été adressée à Yannick, puisqu'il est mon Dieu. Et je veux savoir ce que l'Esprit veut me dire à moi. Et c'est comme ça que Dieu veut entrer en relation avec chacun d'entre nous. Une bonne manière, un petit test comme ça, pour évaluer, déterminer si l'Éternel est ton Dieu à toi ou si c'est le Dieu de ta société parce que tu viens d'un contexte judéo-chrétien ou si c'est le Dieu de tes parents ou si c'est le Dieu de l'Église où tu vas. Non, est-ce que c'est ton Dieu à toi? Un test très simple. Quand tu penses à la parole de Dieu, quand tu penses à la loi de Dieu, parce que dans la Bible, précepte de Dieu, loi de Dieu, parole de Dieu, sont tous des synonymes, d'accord? Donc toute la Bible, en quelque sorte, c'est la loi de Dieu. Quand tu penses à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, est-ce que tu la chéris dans ton cœur? Est-ce que c'est pour toi une lettre personnelle que Dieu t'a écrite? Est-ce que cette loi, est-ce que cette parole est chère à ton cœur, à toi, ou est-ce que ça fait partie de ta culture familiale, de ta culture générale? Tu es ici dans une démarche pour connaître ce Dieu-là. Dans le livre des psaumes est un des livres de sagesse de la Bible même, et le livre des psaumes commence avec ces deux versets. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que cet homme-là a compris que l'Éternel est son Dieu. Une autre manière de te poser la même question, juste formulée autrement, si je pouvais prendre un café avec toi, seul à seul, puis je te posais la question, on jase, puis je veux vraiment te connaître personnellement, je veux vraiment comme avoir accès un petit peu plus à qui tu es, toi. Puis je te posais la question suivante. C'est quoi ta règle de vie à toi? C'est quoi ta règle de vie à toi? C'est comme, tu sais, on a des lois avec le temps, avec les années, il y a comme des choses qui s'imposent, puis on dit, moi, là, c'est ça. Puis il y en a toutes sortes, hein? Vivre, laisser vivre, faire ton bien. Assure-toi de faire ton bonheur, personne ne va le faire à ta place. Il y a toutes sortes de règles comme ça. Toi, là, si tu penses juste à toi, c'est quoi ta règle de vie, tes lois à toi qui sont comme, moi, la vie m'a enseigné ça. Le psalmiste, c'est la parole de Dieu, sa loi. Et il n'y a aucune règle qu'il va formuler par lui-même qui ne va pas avoir été passé au tamis de la parole, éclairé par la parole de Dieu, parce que sa loi, ce n'est pas la sienne, c'est celle que son Dieu lui a donnée. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Parce que, je le répète, par nature, chacun d'entre nous, naturellement, l'être humain, veut se tailler lui-même sur mesure des dieux qui vont être à son image, à sa ressemblance, des dieux utiles qui vont être là pour assouvir ses désirs. Mais Dieu veut se faire connaître à nous tel qu'il est lui, non tel que nous voudrions l'imaginer. Deuxième commandement, c'est exactement de ça dont on va parler, je le relis, d'accord? Exode 20, les versets 4 à 6. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations, jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Naturellement, l'être humain veut s'inventer un Dieu sur mesure. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être plus vieux que moi même, puis vous avez connu cette télésérie. Est-ce que vous vous rappelez de la télésérie avec Jenny? On a des images de ça. Il y en a qui ont connu ça. Qui a connu ça? Juste levez la main, s'il vous plaît. Bon, il y en a 3-4. Hein? Jenny. Jenny, c'est l'illustration même du Dieu taillé sur mesure. Écoute, en plus, une belle popoune. Je m'excuse. Mais je veux dire, quel homme voudrait pas avoir un Dieu comme ça, tu sais, qui est dans une petite bouteille, qui est là, qui est disponible, qui est à ta disposition, qui est là pour tes moindres bonheurs, tes moindres désirs. Tout ce qu'elle veut faire, c'est assouvir tes désirs, dans le fond. Elle est là pour ton bien. Le cœur humain veut se forger des dieux comme ça. C'est comme ça qu'on est naturellement. On voudrait se faire des dieux qui vont être à notre ressemblance, qui vont être pratiques, qui vont être utiles. Et si vous êtes bien attentif, puis vous regardez un peu partout les idoles qui existent et les divinités qu'on trouve dans le monde, ce sont des divinités imaginées, conçues pour répondre à nos désirs à nous, répondre à nos besoins à nous. Mais Dieu veut se faire connaître à nous tel qu'il est lui, non tel que nous aimerions qu'il soit. Dieu veut se faire connaître à nous comme il est véritablement. Alors il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Avant d'aller vers des applications, je veux juste commenter le texte, tirer des éléments importants de ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne dit pas? D'accord? Dans le passage, il dit tout simplement, il commence au verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Point, si je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pris littéralement, ça pourrait vouloir dire, si je m'arrête là, ça pourrait vouloir dire que je veux dire, un bon chrétien, quelqu'un qui va observer la loi de Dieu, fait jamais d'image. Il n'y a pas d'art représentatif. On fait jamais d'image de quoi que ce soit. D'accord? Et c'est un peu comme ça que l'islam comprend cette idée-là. D'accord? On ne doit pas faire d'image, de représentation de quoi que ce soit qu'il y a n'importe où. Maintenant, c'est pas ça que les Écritures disent. Ça ferait pas vraiment de sens que ce soit ça ici, la pensée de Dieu, parce que Dieu lui-même va demander, va voir même exiger dans différentes circonstances à ce qu'on fasse des représentations. D'accord? Lorsqu'il va donner les directives pour concevoir le tabernacle, dans le tabernacle et dans le temple, il va y avoir des représentations de choses qui sont dans les cieux, sur la terre, des anges, des chérubins, des fleurs, des choses comme ça. Donc, il y a des représentations. Pensez aussi aux serpents d'airain, ceux qui sont familiers avec l'histoire. Alors, à un certain moment donné, Israël est rebelle et puis Dieu châtie Israël en envoyant un jugement surnaturel des serpents qui sont là et Dieu leur donne un moyen d'être sauvés, d'être mordus et de mourir. Sous ce châtiment-là, il dit, tu vas faire maintenant un serpent d'airain qui va être sur une pôle. Et là, les gens regarderont ça. C'est une image, encore une fois, d'une chose qui est sur la terre, d'accord? Et donc, Dieu n'est pas en train de dire qu'il ne veut pas qu'il n'y ait d'art représentatif. Pas ce qu'il est en train de dire du tout. J'ai besoin de la suite. J'ai besoin du verset 5 pour comprendre vraiment c'est quoi la pensée de Dieu ici. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et le verset 5 ne fait pas de sens non plus si je le détache du verset 4. Et donc, ce que Dieu est en train de dire ici, Dieu est en train de dire qu'on ne doit pas faire des représentations de choses dans les cieux, des choses sur la terre, des choses dans la mer, des choses sous la terre, peu importe, n'importe où, dans le but de se prosterner devant elle. Et en fait, le mot hébreu qu'il y a là pour représentation, image, le mot hébreu qui est là parle d'art lié au culte, d'art lié à l'adoration, d'accord? Et donc, Dieu est en train de dire, dans votre adoration, dans votre célébration, vous ne devez pas faire des représentations pour vous prosterner devant elle. Parce que vous en feriez des dieux. Parce que ces choses-là deviendraient désordonnées et en viendraient dans votre esprit à vous à prendre la place de Dieu. Et c'est ça l'idée qui est là, qui est à cet endroit-là. Vous ne vous ferez point d'idole. Dans Lévitique 26.1, on lit un passage qui est plus clair encore. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. On lit ça dans Lévitique 26.1. Dieu ne veut pas que dans notre célébration, nous nous fassions des représentations qui servent à l'adoration. Et donc ça exclut l'idée de se forger des idoles. On va revenir sur l'idée des idoles. Mais ça exclut aussi l'idée de se faire une image de Dieu dans le but de l'adoration, dans le but d'adorer Dieu. Ça m'interdit l'idée de dire « je vais définir Dieu par une image ». Maintenant, on va voir pourquoi. Et on doit se poser la question parce qu'on est quand même des êtres qui fonctionnons par la vue. Qui d'entre nous n'est jamais entré dans une cathédrale, dans une église, puis rentrer dans cet endroit-là, puis la majesté de cette sculpture-là, de cette œuvre d'art-là, n'a pas créé en nous une espèce de sentiment de « Oh, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose. » Une bonne illustration, c'est la chapelle Sixtine. Si vous connaissez au Vatican, on a des images de ça. C'est absolument superbe, d'accord? C'est de toute beauté. Et on peut aller à la prochaine image. Dans la voûte de la chapelle Sixtine, on a cette toile de Michel-Ange qu'on a un petit peu tronquée, d'accord? Par pudeur. C'est Michel-Ange qui a fait ça autour de 1508. Et il s'agit de la création d'Adam. Alors, vous avez une image à droite qui représente Dieu qui est en train de créer Adam. Maintenant, ce que je comprends dans ce texte-là, c'est que faire une telle image dans un lieu d'adoration, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord parce que ça va m'amener éventuellement à inclure ça dans ma définition de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous nous fassions une représentation de lui? Certains pensent que Dieu ne veut pas qu'on fasse cela parce que Dieu est un esprit, Dieu est invisible. Et donc Dieu serait tellement invisible qu'on ne pourrait pas le représenter. Il ne pourrait pas même lui-même se représenter. Dieu serait un peu comme l'homme invisible. D'accord? Vous connaissez l'homme invisible? Puis, je veux dire, la seule manière que l'homme invisible peut devenir visible, c'est qu'à quelque part, il faut qu'il se recouvre. Et donc, certains croient cela. Ils se disent, Dieu est esprit, donc Dieu ne peut pas se manifester. Comme beaucoup de théologiens, je ne pense pas que c'est ça la réponse. Je ne pense pas que c'est ça la réponse. Je pense que Dieu peut se manifester s'il le veut, d'accord? Et je ne pense pas que c'est ça la vraie raison. Maintenant, Dieu nous a interdit de le faire, et il a une raison pour ça. C'est qu'il veut se faire connaître à nous tel qu'il est. Un petit peu plus loin, toujours dans la même section de l'Ancien Testament, on lit dans Deutéronome, d'accord? Et je vais vous lire ce passage où, où Moïse rappelle la loi, rappelle à Israël le moment où ils ont reçu la loi de Dieu. Puis on va aller voir un petit peu cette question-là de la représentation visible de Dieu. Dans Deutéronome 4, je vais commencer un tout petit peu plus haut que ce que vous allez avoir d'affiché à l'écran. En ce temps-là, l'Éternel me commanda, c'est Moïse qui est en train de parler, de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et voici, Moïse continue en disant, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. » Le mot « figure » qu'on a ici en hébreu, c'est « témouna ». Okay? Retenez ça parce que je vais reparler de la témouna. Juste retenir ça, ça va? « Puisque vous n'avez vu aucune témouna le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, qui est le mont Sinaï, c'est juste un synonyme, « Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque, de quelque idole, je m'excuse, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. » Il continue en disant, « Veille sur ton âme. De peur que, levant tes yeux au ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, tout le firmament, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Dieu est en train d'adresser ici cette facilité qu'on a à tomber en admiration, en adoration devant des choses tellement grandes. Ça m'est arrivé de rentrer dans une cathédrale, puis je n'ai pas été élevé dans l'Église catholique, d'accord? Je ne suis pas très familier, mais ça m'est arrivé de rentrer là puis de dire, « Oh wow, je comprends. Je comprends ce qui se passe quand tu rentres là, l'espèce de... » Moi, personnellement, ça ne me fait pas vibrer autant que la nature. Et honnêtement, là, si je parlais juste de sentiments, si je parlais juste de feeling, là, je ne me sens jamais aussi près de Dieu, naturellement, moi, là, que lorsque je suis dans une forêt. C'est pas un coucher de soleil, c'est une forêt. Peut-être mon père qui m'a initié à la chasse, mais je suis dans une forêt. Puis là, quand j'arrive, toute la nature s'est tue parce que j'ai dérangé tout le monde. Puis là, je m'arrête, je m'installe. Puis après 20-30 minutes, le bruit commence à... La vie commence à reprendre son cours. Puis je deviens un arbre. C'est comme si j'étais invisible pour la nature. Un chevreuil peut passer à 50 pieds devant moi, ça ne l'énervera même pas. Et moi, là, naturellement, à cet endroit-là, là, wow! Dieu sait qu'à l'intérieur de nous, parce qu'on est des êtres sensuels, des êtres qui fonctionnent avec nos sens, on a cette tendance à tomber comme ça, devant des choses semblables. Et si ça s'arrêtait là, pour me tourner vers Dieu et l'adorer, ça serait super sain. Mais Dieu sait qu'on a tendance à faire un pas de plus, prendre ces choses-là qui créent ce feeling-là en nous, puis en faire des objets d'adoration. Alors Dieu dit à Israël, « Lorsque je me suis manifesté à toi sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, je t'ai parlé. » Tu n'as pas vu de représentation de moi. Et Dieu est en train de dire, voici comment je vais me faire connaître à toi, être humain. C'est premièrement par ma parole, par ma révélation. Je t'ai parlé. Je t'ai parlé et ce que je t'ai dit a été inscrit dans une lettre pour toi, dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça, premièrement, que je veux que vous me connaissiez. Non pas que vous essayiez de me définir par une image quelconque. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas se manifester à nous? Que Dieu ne pourrait pas se représenter devant nous? Vraiment intéressant de vous rappeler de mon mot de témouna. Un petit peu plus tôt dans la Bible, on a une situation qui survient où Moïse avait un frère et une sœur, Aaron et puis Myriam. Et puis bon, Moïse, c'était comme, tu sais, c'était le big shot. Dieu avait choisi Moïse, puis... Quand même, il les avait vraiment honorés. Myriam était prophétesse, Aaron était, écoute, tout un rôle super important devant le peuple. Mais il y avait une certaine jalousie dans leur cœur. Puis à un certain moment donné, Aaron et Myriam ont commencé à chercher querelle à Moïse sur le fait qu'il avait marié une Éthiopienne. Puis là, finalement, il est peut-être pas aussi pur. Fait que là, ils commencent, là, le fond de leur cœur sort, puis ils disent, pourquoi est-ce que l'Éternel parlerait au peuple juste à travers Moïse? Pourquoi est-ce qu'il parlerait pas à travers nous aussi? Et là, Dieu les appelle. Une chicane de famille, Dieu dit, ah oui, dans mon bureau, ça presse, je vais vous parler. On tourne ensemble, je vais vous lire dans Nombre 12. Dans Nombre 12, verset 8 et suivant, on lit, « Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, Myriam, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Ils envoient dans le coin, ils s'en vont les rencontrer, ils vont leur parler. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez-moi bien, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une témouna de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Intéressant, hein? Dieu se manifestait devant Moïse et il y avait une témouna de Dieu, une représentation de Dieu qui était là. Mais Dieu a décidé, lorsqu'il s'est fait connaître à tout le peuple, qu'il n'y aurait pas de témouna, il n'y aurait pas de représentation de Dieu. Personne ne pourrait partir de là en disant, j'étais là. Les croquis qu'on a faits, ils viennent de là. On l'a vu apparaître, je te dis, sa silhouette, ça ressemblait à ça. Barbe blanche, tout le kit. Et c'est pour ça qu'on a encore des statues qui représentent ce Dieu-là. Il semble que Dieu avait décidé à ce moment-là que ceci nous amènerait à déformer notre vision de Dieu, à diminuer qui est Dieu, à changer qui est Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne peut pas se manifester à nous d'une manière quelconque. En fait, gardez ça en tête. On va avancer dans le récit biblique, vous allez voir. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais à ce moment-là, Dieu voulait protéger Israël de commencer à former et définir Dieu comme eux le voulaient. Je reviens sur mon image de la chapelle Sixtine. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'il y a des représentations de Dieu, vous remarquerez qu'il n'est pas dans sa prime jeunesse, le monsieur. Il a une barbe blanche. Je suis jaloux d'ailleurs de sa barbe et surtout de ses cheveux. Mais je vous pose une question. Ça représente peut-être la sagesse pour nous. Il est pas mal shapé pour un monsieur de cet âge-là, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'il a vieilli, ça, c'est ça? Et vieillir, selon les Écritures, ça vient d'où? Ça vient du péché. L'être humain vieillit parce qu'il a été maudit par Dieu, parce qu'il va mourir un jour. Et donc, à partir du moment où on représente Dieu comme un vieillard, déjà on est en train de dire quelque chose de faux par rapport à Dieu. S'il y a de quoi, Dieu est plus jeune qu'Adam. Et Dieu devrait donc être plus jeune qu'Adam. On devrait peut-être faire Dieu l'enfant. Mais encore là, je ne suis pas vraiment en train de représenter qui est Dieu. Voyez-vous, on ne s'en tire pas. On n'a pas à faire cela. On n'a pas à faire cela. Parce que Dieu veut se faire connaître à nous tel qu'il est. Et Dieu a décidé de se révéler premièrement à travers sa parole. Premièrement à travers sa parole, cette parole-là, nous l'avons aujourd'hui. Vous et moi, on n'était pas là au Mont Sinaï. Vous et moi, les éclairs, le tonnerre, tout ça, on ne les a pas entendus. Mais sa parole, nous l'avons. Parce qu'il l'a gardée pour que nous la lisions. Et Dieu veut que nous le connaissions tel qu'il est. Non pas qu'on essaie de le définir par nous-mêmes. D'où l'importance de la question que je vous posais au début. Est-ce que Dieu est ton Dieu? Si Dieu est ton Dieu, est-ce que sa parole, est-ce que sa loi est ta loi? Est-ce qu'elle est chère à ton cœur? Est-ce que tu la lis, tu la médites pour connaître Dieu tel qu'il est? Ou est-ce que tu prends une distance par rapport à cette loi-là parce que tu n'es pas là quotidiennement pour laisser Dieu former ta pensée, ton cœur, tes idées sur la personne de Dieu? Et tu en viens à définir Dieu tel que toi tu veux qu'il soit, tel que toi tu aimerais l'imaginer. Dieu a interdit à Israël de le définir comme il voulait qu'il soit, tout simplement parce que Dieu voulait se faire connaître à eux tel qu'il est lui-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu pense des idoles? Parce que Dieu interdit qu'on se fasse des idoles, qu'on se fasse des idoles pour se prosterner devant ces idoles. Je vais vous lire un long passage, il va être affiché à l'avant, et vous allez voir, ça dit beaucoup sur la vision que Dieu a des idoles, que les êtres humains peuvent se faire, d'accord? Dans Ésaïe 44, les versets 6 à 23, long passage, je vous lis des sections seulement. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? » Puis un peu plus loin, il dit « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. » Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Il dit, lorsqu'on les regarde, on voit bien qu'elles ne servent à rien. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour en retirer aucune utilité? Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec son couteau et marque ses dimensions avec un compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle du feu, il brûle au feu la moitié de son bois. Et avec cette moitié, il cuit de la viande, apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il se fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égard et il ne sauvera point son âme et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Les idoles, pour Dieu, sont stupides et mortes. Parce que les matériaux même qu'on prend pour former ces idoles, c'est Dieu qui les a créés. Et on peut être tenté à notre époque, dans notre culture à nous, à regarder avec un peu de poésie et un peu de mépris toutes sortes d'idoles qu'on voit un peu partout sur la terre. Puis, j'ai eu le privilège de visiter un temple bouddhiste une fois. C'était, honnêtement, en termes de beauté, là, si j'enlève toute la question morale, c'était super beau. Je ne regrette pas juste d'avoir mis les pieds là. Encore une fois, ce sentiment devant la beauté, devant ce que l'homme peut faire de beau, tout ça. Mais en même temps, je rentre dans ce temple puis il y a un jeune homme qui est là qui devait avoir, d'après moi, 15 ou 16 ans. Et je ne dis pas ça avec mépris, d'accord? Je ne dis pas ça avec mépris. 15 ou 16 ans. Et dans leur compréhension, ce jeune homme-là était une réincarnation de Bouddha, d'accord? Alors, il y avait plein de gens qui étaient là, qui venaient porter toutes sortes d'offrandes, puis il y avait des chats là-dedans, puis il y a plein de chats puis, qui étaient libres. Puis lui était là, puis paisiblement, il faisait juste sourire. Il était la réincarnation de Bouddha. Et donc, à nos yeux, à nous, lorsqu'on voit ces cultes d'idoles, ces cultes de fabrication humaine, tout ça, on peut être tenté d'avoir un certain mépris en disant « Mais ma gang de cabochons, pourquoi vous ne comprenez pas que ça ne peut rien faire pour toi, cette affaire-là? » Mais en même temps, Dieu, dans sa parole, nous dit que c'est plus subtil que ça, les idoles. On a commencé à l'adresser. Déjà dans l'Ancien Testament, ce langage-là qui prête à beaucoup d'autres choses que Dieu a créées. Beaucoup d'autres choses que Dieu a créées, la propriété de devenir une idole. C'est déjà là dans l'Ancien Testament. Retenez ça. Tout ce que Dieu a créé, le cœur de l'homme a la capacité d'en faire une idole. Tout. Vivant ou mort, tout ce que Dieu a créé, le cœur humain a la capacité d'en faire une idole. Tout. Je vous lis quelques passages très, très rapidement. Dans l'Ancien Testament déjà, dans le livre de Job, Job dit ceci. Il dit, « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, Job était riche avant d'être sous une épreuve de la part de Dieu, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, c'est encore un crime que doivent punir les juges et j'aurais renié le Dieu d'en haut. » Il dit en quelque sorte, « Si j'avais fait de mes richesses mon Dieu sur qui je m'appuyais, sans même l'avoir coulé comme une idole, ce serait déjà un crime. J'aurais déjà renié Dieu. » Simplement parce que j'ai mis ma confiance dans mon or, dans mes richesses. Dans le livre d'Habacuc, le prophète, on lit « Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. » Dans ce cas-là, c'est ses compétences, ses capacités, son assurance l'amènent à renier Dieu. Parce qu'il a confiance en lui plutôt que se confier en Dieu. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Philippiens, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il dit, « Ce sont des êtres tellement sensuels, axés sur leur sens, que c'est ça qui domine leur vie. C'est ça qui contrôle leur vie. C'est là qu'ils trouvent toute leur passion. » L'être humain, le cœur humain a cette capacité de prendre n'importe quoi que Dieu a créé et en faire un substitut, une espèce de splenda divin, d'accord? Une espèce de succès d'année qui est là pour remplacer Dieu. Et on peut faire ça avec n'importe quoi. N'importe quoi dans ta vie. Et souvent, le piège se trouve dans le fait que ce sont de bonnes choses. N'importe quoi dans ta vie peut devenir un Dieu dans ta vie, peut devenir ton Dieu. Et évidemment, à notre époque, le Dieu de notre époque, c'est l'homme lui-même, c'est le cœur humain, c'est l'être humain. L'être humain est son propre Dieu, il est au centre de l'univers, il est son propre juge en toutes choses. Puis pourtant, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Et donc, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien à travers toutes ces choses qu'il a créées. Mais il y a cette disposition dans notre cœur à vouloir en faire des idoles. La vérité, c'est que nous sommes tentés d'aimer, de nous confier en bien d'autres choses qu'en Dieu. Je vous lis une belle citation d'un théologien puritain, Matthew Henry. Voici ce qu'il dit. « L'orgueil prend le moi et en fait un Dieu. La convoitise prend l'argent pour en faire un Dieu. Les désirs sensuels prennent l'estomac pour en faire un Dieu. » Tout ce que nous estimons, aimons, craignons, servons plus que Dieu, toutes ces choses bonnes deviennent des dieux. C'est Jean Calvin qui a dit, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Et la raison pour ça, c'est simple. C'est que Dieu est grand et infini. Et la bonne réponse, la bonne attitude à avoir devant lui, c'est de dire, fais-moi connaître qui tu es comme tu es. Tu es grand, tu règnes, et je suis là pour te servir, te glorifier. Mais le désir de nos cœurs à nous, c'est de mettre Dieu à notre main. C'est de se créer des dieux à notre image qui vont nous servir, qui vont faire ce que nous, on veut. Et donc, on prend toutes sortes de choses, puis on en fait des idoles dans nos vies, et on les chérit davantage que Dieu. Lorsqu'on arrive dans le livre, la lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament, Paul formule ça dans un langage qui est plus contemporain, qui nous ressemble un petit peu plus. Dans Romains 1, 23, 25, voici ce qu'on lit. « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Ils ont changé la gloire de Dieu en image, la gloire du Dieu incorruptible en image. Et à notre époque, le plus grand danger pour chacun d'entre vous, c'est que tu sois ton propre Dieu. Et c'est ça qui est dit ici dans Romains. L'être humain a pris l'homme l'homme qui est pécheur, l'homme qui est corruptible, l'homme qui est une créature de Dieu, et il en a fait son Dieu. Et à notre époque, c'est le Dieu qui domine dans notre société. Et une belle application de ça, une incidence qu'on voit, c'est par exemple, actuellement, on arrive à un niveau de confort dans notre société qui donne beaucoup plus de temps aux loisirs, beaucoup plus de temps pour soi, puis là, on rentre dans des grandes quêtes. Une fois que j'ai fini ma semaine de travail, une fois que je me suis occupé de ma famille, tout ça, qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Et si je ne cherche pas la réponse en Dieu, je dis bien, je suis là pour m'accomplir. Je suis là pour que Yannick laisse sa trace dans l'histoire de l'humanité, sa marque indélébile. Je suis là pour qu'on m'admire. Et je vous donne un exemple très concret avec le culte du corps, d'accord? C'est vraiment intéressant, puis on le voit beaucoup, beaucoup avec les jeunes. À notre époque aujourd'hui, négliger sa santé, être obèse dans notre culture ici au Québec à tout le moins, c'est de moins en moins raisonnable, d'accord? Ça fait comme pas de sens, cette affaire-là. Puis il y a quelque chose de très sain là-dedans. Tu vois quelqu'un qui est hors de contrôle par rapport à son poids. Si tu es gracieux, tu vas dire peut-être qu'il y a un problème de santé, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais souvent, le réflexe dans notre société, ça va être de dire c'est quelqu'un qui n'est pas sage, qui ne prend pas soin de sa santé, il devrait commencer à se prendre en main. Puis je vous avoue, ça paraît même avec les pasteurs, d'accord? Alors, vous regarderez, il y a une époque où les pasteurs, c'était du monde qui passait tout leur temps dans des livres puis qui mangeaient pour vivre. Puis vous regarderez la shape qu'ils avaient aussi. Ils ressemblaient tous à Charles Spurgeon, d'accord? Ça ressemblait à ça. Puis aujourd'hui, un pasteur qui va faire ça avec sa santé, ça va être comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas sûr que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il manque de sagesse, manque de maîtrise de soi. Il y a quelque chose de fondamentalement bon dans toute cette réflexion-là, d'accord? Et donc, tout cet engouement-là pour la santé, pour être en forme, pour faire de l'exercice, pour bien manger, hey, c'est super sain tant que ça va jusque-là. Et à la limite, dire, oui, mais pourquoi Dieu m'a créé beau? Je veux être beau, je veux prendre soin de moi. Ça va jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais la ligne entre ça, puis passer de l'autre côté pour dire, finalement, ce qui définit si je suis bien dans ma peau, ce qui définit si je suis heureux, ce qui définit si ma journée va bien se passer, dépend du regard que les autres déposent sur moi et le regard que je peux déposer sur moi-même quand je me regarde dans la glace le matin avant d'enfiler ma chemise. Qu'est-ce qu'il y a de là, ma shape? Parce que lorsque je me promène, là, moi, j'ai besoin quand même que les yeux des gens ne disent pas « Hey, c'est quelqu'un de sage qui prend soin de sa santé. » Non, j'ai besoin quand même que les gens disent « Quand même, hein. Quand même. » Et voyez-vous très, très facilement, que ce soit la connaissance, que ce soit la culture, que ce soit l'exercice, que ce soit la santé, très, très facilement, quelque chose qui, une approche qui est super saine, super bien, vouloir être en santé, prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'est correct, c'est bon, c'est sage. C'est le temple de Dieu après tout, cette affaire-là. Mais la ligne est fine pour que ça devienne une idole dans ma vie. Et ma sécurité, mon image de moi-même, la définition de ce que je suis, de ce que je vaux, dépend du regard que je dépose sur moi-même dans la glace et du regard que les autres déposent sur moi, que ce soit par ma carrière, par mon titre, par mon emploi, par ma réussite ou non avec ma famille, que ce soit par mon look physique, que ce soit par mon état de santé, par mes performances physiques. Tout ça peut devenir une idole. Et vous savez quoi? Le plus triste dans tout ça, depuis le début du message, on parle de ne pas se faire d'image de Dieu. Le plus triste dans tout ça, c'est que Dieu en a fait une image de lui. C'est l'être humain. Lorsqu'on est dans la Genèse, dans Genèse 1, on va lire le passage vite ensemble. Dans Genèse 1, 26-27, on lit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé quelque chose à son image déjà, c'est l'être humain. Alors, Dieu ne veut pas que l'être humain qui a été créé à son image se regarde dans la glace et dise « Je vais créer un Dieu à mon image. » C'est moi qui ai été créé à l'image de Dieu. Et par ma vie, par mon style de vie, par mes paroles, par mes actions, je suis censé être un reflet de Dieu. Je suis censé d'imager Dieu devant les gens autour de moi. L'être humain, dans sa folie, au lieu d'accepter de regarder seulement Dieu tel qu'il est pour refléter Dieu par ses attitudes, a dit « Je vais faire un Dieu à mon image. » Et pourtant, Dieu nous avait créés à son image déjà. Voyez-vous comment c'est tordu? Et donc, dans toutes mes attitudes, mes agissements, mes comportements, je suis censé être un reflet de Dieu. Je suis là déjà pour représenter Dieu. Je suis là pour être une image de Dieu moi-même auprès des hommes, pour les pointer vers ce Dieu invisible que j'ai connu à travers la parole. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons oublier ce Dieu-là parce qu'il est trop grand pour nous, parce qu'il faudrait l'adorer, le servir, reconnaître sa grandeur. Et on veut se faire des petits dieux sur mesure, des idoles qui vont servir nos passions, nos désirs. Et en faisant cela, on oublie qu'on a été créés nous-mêmes à l'image de Dieu. Alors, si je reprends l'histoire dans les Écritures, Dieu crée l'homme à son image, puis lui dit, « Tu vas être mon reflet. » Dans toutes tes attitudes, tes agissements, tu vas refléter le Dieu invisible. Tu vas me refléter moi, partout où tu vas agir. Mais l'être humain pêche. L'être humain pêche, rejette Dieu, décide de dire, « Non, je ne veux pas te servir, je veux être mon propre Dieu. Je veux être indépendant, je veux être autonome, je veux faire les choses comme je veux moi-même. » Et inévitablement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il commence à créer toutes sortes de dieux. Et donc, l'être humain qui devait refléter la personne de Dieu, il n'est plus en train de le faire. Maintenant, on a dit au début du message, que Dieu ne s'était pas montré à travers une témouna au peuple de Dieu, mais il l'avait fait avec Moïse. Puis que Dieu avait parlé juste à travers sa parole. Mais un jour, Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre, dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque Dieu a dit à Israël, « Vous ne ferez pas de représentation de moi », c'est parce qu'il voulait que le peuple d'Israël veuille simplement le connaître tel qu'il veut se faire connaître. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir chacun d'entre nous devant la parole de Dieu. Mais c'est aussi parce que Dieu savait qu'un jour, Dieu viendrait marcher parmi les hommes et deviendrait visible. On pourrait voir Dieu, Dieu le Fils parmi les hommes, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Jésus-Christ est cette parfaite représentation de Dieu. Parfaite. Un jour, Jésus est en train de marcher avec ses disciples, puis il est en train de jaser avec les disciples, puis un de ses disciples dit, c'est Philippe, il dit, « Fais-nous connaître le Père, on veut voir le Père. Montre-nous le Père. » Et voici ce que Jésus répond à ce moment-là, à Philippe. On lit ça dans Jean 14:9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus-Christ est cette parfaite représentation de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, on lit qu'il est le reflet même de Dieu. Dieu veut se faire connaître à vous. Dieu veut se faire connaître à chacun d'entre nous. Et Dieu s'est fait connaître à travers sa parole et il s'est fait connaître à travers son Fils. La question, c'est, est-ce que je vais chercher à le connaître tel qu'il est ou est-ce que je vais chercher à le définir comme moi je voudrais qu'il soit? Alors, est-ce que dans nos services, dans notre adoration, on devrait avoir des représentations de Dieu? Non, on ne devrait pas en avoir. On ne devrait pas en avoir parce que ça va toujours nous amener à redéfinir Dieu comme on le voudrait. Et donc, il ne devrait pas y avoir de représentation de Dieu associée à notre adoration. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour élever mes enfants, lorsque je suis en train de leur raconter les histoires bibliques, je ne devrais jamais, d'aucune manière, avoir un récit, puis là, il va y avoir Jésus dans l'histoire? Non, je pense que ça va. On est dans un domaine pédagogique, je suis en train d'enseigner mes enfants. Mais est-ce que je vais, pendant que je suis en train d'adorer, avoir des représentations même de Jésus-Christ? Non, je ne crois pas. Non. Parce que j'attends son retour, j'attends qu'il revienne. C'est par son esprit qu'il parle maintenant. Je vous donne un autre exemple super pratique, super simple. Les chrétiens portent parfois une croix dans le cou. D'accord? Est-ce qu'un chrétien devrait porter une croix? Est-ce qu'on devrait avoir une croix ici en avant? Des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Des fois, on l'enlève, puis là, il y a des gens qui viennent nous voir, puis ils disent « La croix est plus là. » Mais c'est correct, je comprends. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'un chrétien porte une croix dans son cou si son but, c'est de dire « Je suis chrétien. » C'est pour m'identifier comme chrétien. Mais en même temps, si cette croix-là que je porte dans le cou fait partie de mon culte, à quelque part, quand je vais dans la prière, j'ai besoin de la prendre dans mes mains. Et lorsque je fais ça, c'est comme si je rentrais dans cette cathédrale. Lorsque je l'enlève, puis je vis un moment de difficulté, d'angoisse, j'ai besoin juste de la reprendre, puis d'être là pour me sentir bien. Voyez-vous, je suis en train de me faire une image. Je suis en train de m'en servir pour adorer. Et je pense que là, on est en train de déraper. Si on a une croix dans une église pour dire qu'on est chrétien, pas de problème. Est-ce que ça la prend là pour qu'on puisse connecter avec Dieu? Non, pas du tout. Ce serait réduire Dieu à cette croix-là déjà. Dieu s'est fait connaître à nous à travers sa parole et il veut qu'on le connaisse tel qu'il est. Dieu s'est fait connaître à nous à travers son Fils, Jésus-Christ, et il veut qu'on le connaisse tel qu'il est. Dieu s'est manifesté visiblement dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. On va passer dans un temps de louange. On va passer dans un temps de louange, puis j'aimerais ça vous donner deux tests, d'accord? Deux tests à réfléchir cette semaine pour examiner nos cœurs, pour évaluer c'est quoi l'état de nos cœurs. Est-ce qu'il y a des idoles dans nos vies? La vérité, c'est qu'on a tous tendance à le faire très facilement. Il y a deux mots qui sont là dans Exode. Soit dit en passant, je vais revenir sur la question de la malédiction, de la bénédiction. Okay, dans deux semaines, c'est prévu, on revient sur ça. Mais il y a deux termes qui sont là. Il dit, je ne veux pas que vous fassiez des images taillées pour vous prosterner devant elles et pour les servir. Alors, les deux tests que je place devant vous sont les suivants. Premièrement, c'est le test de l'amour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément? Est-ce que c'est ta musique que tu écoutes? Qu'est-ce qui t'amène le plus de joie dans ton fort intérieur? T'es comme, ah, t'es hype quand ça c'est là. Ça, c'est ce que t'aimes le plus. C'est ta musique? C'est ta carrière? C'est quand dans le cadre de ton travail, je vois Mathieu qui est là-bas, un médecin, tu sais, des fois, tu sauves des vies. Il me semble que tu dois avoir une méchante drive. Moi, je vais à la chasse, j'enlève des vies, puis j'ai une drive. Tu sauves des vies! Ça me dit, oh! Est-ce que c'est ça que t'aimes le plus, le rush que t'as là, là? Est-ce que c'est ta fiancée? Tu veux savoir? Qu'est-ce qui t'enlèverait le sens de la vie si on te l'enlevait? Ta santé, ton travail, ton époux, ton épouse, ta fiancée, ton fiancé, tes enfants. Hey, c'est toutes des bonnes choses que j'ai dit jusqu'à date, hein? Ce que tu aimes plus que Dieu, c'est certainement une idole dans ta vie. Et si tu aimes Dieu plus que tout, il n'y a rien qu'on peut t'enlever. Il n'y a rien qu'on peut t'enlever qui va détruire ta vie, parce que tu as Dieu. Et c'est ça que Jésus a dit lorsqu'il a dit, « Si quelqu'un aime plus son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple, parce qu'il en a fait une idole dans sa vie. » C'est le premier test. Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Est-ce que c'est Dieu? Alors c'est ton Dieu. Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Voilà ton Dieu. Qu'est-ce qui détruirait ta vie si on te l'enlevait? Voilà ton Dieu. Si on m'enlevait Dieu, ma vie serait détruite, je vous le garantis. La grâce de Dieu, c'est qu'on ne peut pas me l'enlever. Personne ne peut me l'enlever. Premier test. Deuxième test. Tu ne les serviras pas. Tu ne te feras pas d'idole pour les servir. Qu'est-ce que tu sers? Qui est-ce que tu sers? Qu'est-ce qui te pousse à te dépasser toi-même? Qu'est-ce qui drive pour dire, là, je veux être là pour cette personne-là, je veux être là pour ça? Qu'est-ce qui fait toute la différence? Qui, le matin, lorsque tu te lèves, tu te dis, moi, aujourd'hui, je vis pour ça. Ta carrière? Te définir toi-même? Tantôt, on a parlé du culte du corps. Il y a des millions de personnes qui vivent pour ça. Deviennent quadriplégiques demain matin. Les exercices vont être limités. Plus difficile. Perdre leur idole. Qu'est-ce que tu sers? Est-ce que tu sers ton épouse au lieu de servir Dieu? Et c'est un culte que tu lui voues parce que lorsqu'elle ne répond pas bien à ton service, lorsqu'elle ne dit pas « Oh, merci mon petit mari, tu es merveilleux », mais qu'elle ne voit même pas que tu es en train de la servir dans ton cœur, c'est ton idole. Mais si tu sers Dieu, tu sers Dieu. Que les gens autour de toi que tu es en train de servir, les gens que tu es en train d'aimer, les gens auprès de qui tu es en train de te donner, le reconnaissent, le reconnaissent pas, ça devient quand même secondaire. Je ne dis pas que ce n'est pas blessant, vous comprenez? Mais je sers Dieu. Qu'est-ce que tu sers, toi, ta carrière, les gens autour de toi, l'amour de ta vie, ton fonds de pension? Tu cours après ton fonds de pension jusqu'à t'en tuer. Pas très brillant. Tes vacances. Tu vis pour la fin de semaine. Qu'est-ce que tu sers? Frères et sœurs, nos cœurs sont des fabriques d'idoles. Nos cœurs sont des fabriques d'idoles. Et lorsque je préparais ce message, dans mon cœur, je priais pour l'Église. Et je disais au Seigneur, « Seigneur, viens nous montrer nos idoles. Viens nous les montrer, Seigneur, afin qu'on les chasse de nos vies. Parce qu'une idole qu'on tolère dans notre vie, dans notre cœur, va détourner l'homme le plus sage, Salomon, l'homme le plus sage du monde. Lorsqu'une idole entre dans sa vie, va le détourner de Dieu. Alors ne crois pas que toi ou moi, on est assez fort et assez sage pour les dominer. Donne-les à Dieu. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi pour t'adorer parce que tu es Dieu. On vient, Seigneur, pour t'adorer parce que toi seul, Seigneur, tu mérites d'avoir toute la place dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Nous venons pour t'adorer parce que nous voulons te donner un cœur sans partage. Seigneur, nous voulons te donner notre passion. Nous voulons répondre à cette invitation. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous reconnaissons cette facilité pour le cœur humain, comme disait Jean Calvin, de se fabriquer des idoles qui détournent nos regards de toi et nous trouvons notre joie, notre espoir, notre sécurité dans ces idoles plus malléables, plus à notre portée, qu'on peut définir comme on voudrait, Seigneur. Et nous avons besoin quotidiennement, constamment, que par ton esprit, tu viennes nous montrer ces idoles, Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons à toi parce que toi seul as vaincu tous les tests. Toi seul ne t'es pas forgé d'idoles, Seigneur. Toi seul, Seigneur Jésus, as su garder toujours ton Père au centre de ton cœur, Seigneur. Et Seigneur, tu es mort sur cette croix pour vaincre toutes les idoles de nos vies. Et j'en appelle à ta grâce, Jésus, à ton pardon, pour que tu me pardonnes, Seigneur, toutes les fois où je détourne les regards de toi et je me confie dans ta création. Et je prends des choses souvent bonnes que tu m'as données et je les élève à ta place dans mon cœur. Je ne suis plus disponible pour t'écouter parce que ces choses, ces personnes, ces choses que je poursuis sont plus importantes à mes yeux que toi, Seigneur. Pardonne-moi. Viens et chasse ces idoles de nos cœurs, Seigneur. Et remplis-nous de toi, Jésus. Amen.